wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lily Bloom, Lucille Como et Julien Gester pour parler ensemble des Misérables de Lajli, Terminal Sud de Rabat à Meurzheimech, Les Enfants d'Isadora de Damien Manivelle. Mais nous ouvrons cette dispute avec un hommage à Jean Doucher, dont on a appris ce matin la disparition à l'âge de 90 ans. Jean Doucher n'est pas un nom connu du grand public, il est des cinéphiles, il est aussi des auditeurs de France Culture. Il a été souvent invité sur notre antenne, lui qui est un formidable conteur et raconteur et du 7e art qu'il a d'ailleurs enseigné dans de nombreuses écoles, mais dont il a aussi transmis le goût dans d'innombrables séances de ciné-club partout en France et dans quelques coins du monde aussi. Il a bien sûr beaucoup écrit, principalement dans les cahiers du cinéma, mais des livres évidemment aussi consacrés à Hitchcock, à Mizoguchi, à Minelli, à la Nouvelle Vague. Il a lui-même réalisé documentaires et fictions. On sait qu'il a beaucoup compté pour de très nombreux cinéastes qui ont pu déjà dire depuis ce matin leur tristesse à l'annonce de cette disparition, cinéastes comme Arnaud Desplechin, François Ozon ou Xavier Beauvois. Il a aussi traversé nombre de films, la plupart du temps dans de petits rôles, mais c'était aussi un signe, un gage de reconnaissance chez Truffaut, Godard, Romère, Eustache, Rivette, Brissot, Chéreau et quelques autres. On écoute tout d'abord Jean Doucher au micro d'Alain Weinstein, c'était sur France Culture en 2014.
L'idée ou la conscience que j'ai eue de la critique, c'était que la critique était nécessaire dans tout processus de création. C'est-à-dire que si on prend un peintre, quand il met une couleur sur sa toile, il est obligé à un moment de se reculer et de regarder l'effet que ça produit. Et il revient à sa toile. C'est-à-dire que la critique est intégrée au processus même de création dans quelques domaines que ce soit. C'est vrai en littérature, c'est vrai en musique, etc. Et au cinéma, évidemment, c'est pareil. Donc, si maintenant on passe du statut de créateur vers le peintre, le cinéaste, etc., qui se met en question par rapport à l'œuvre, si on se recule, il y a forcément le témoin, le spectateur, etc., enfin, tout ce qu'on veut, le lecteur, et celui-là est aussi un critique qui fait revivre l'œuvre. Et c'est cette critique-là qui m'intéresse, c'est une critique qui participe de la création, et non pas une critique qui donne des notes comme un petit prof qui annote la copie de son élève.
Jean Doucher, critique nécessaire dans tout processus de création. Alors tiens, Julien Gester, pour un jeune critique comme vous, qui est né quand même plus de 50 ans après Jean Doucher, qu'est-ce qu'il représente, si j'ai fait le calcul, croyez-moi.
Qu'est-ce que vous en savez exactement? Non, mais c'était pas le sujet.
J'ai des dossiers sur vous.
Pour moi, Doucher, c'est la figure du passeur absolu. Pas seulement parce que le grand critique serait passeur de films, serait passeur de savoir et de connaissances qu'il traverserait ou qu'il porterait à l'attention et à la clarté du regard de spectateurs qui le lirait ou à qui il parlerait. Et moi, j'insiste sur la parole parce que Doucher a été un immense écrivain de cinéma, mais je pense que plus qu'aucun autre, peut-être, il a porté sur 6 décennies ou 7 cette idée aussi d'un art vivant et oral de la critique de cinéma, à la fois à la Cinémathèque française, au cinéma du Panthéon et dans un très très grand nombre de salles, soit à Ressay de France, dans tous ses recoins. Et moi-même, j'ai des souvenirs précis de mon adolescence provinciale et alsacienne, marquée par le passage du train Doucher en ville autour de films d'Hitchcock ou de Mizoguchi. Mais je dis figure du passeur absolu parce que par ailleurs, ce que passait Doucher, c'était aussi un art de, non seulement cet art d'aimer les films, mais d'aimer la critique. Et dans ses plus vastes dimensions. C'était une figure, c'était un art, l'art de Doucher, c'était un art absolument joyeux, vorace, élégant, enfin qu'incarnait sa, à la fois, je pense qu'il s'incarnait à la fois dans sa voix qu'on vient d'entendre, dans sa silhouette lorsqu'elle a traversé des films et pas des moindres, même si c'était souvent, comme vous le disiez, sur un mode un peu discret, mais c'était une manière. Quand je parle de, à la fois de joie, de jubilation, de voracité, de gourmandise presque, un enthousiasme à se propulser, à se promener absolument partout dans le film, à se fondre à l'intérieur et à y faire son lit, à le faire sien, à y faire ce qu'on veut. Et je trouve que ce qu'a pu passer Douchet à tout un tas de spectateurs, critiques, amateurs ou professionnels de cinéma, c'est aussi ça, ce goût-là, non seulement de la beauté des films, mais aussi de cette manière de se promener dans les films et de les faire absolument siens, une manière de transmettre que tout est possible, en fait, qu'il n'est pas presque de... Je voudrais pas dire qu'on peut dire que ce que transmettait Douchet, c'était qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi des films, mais il suffit, je trouve, d'ouvrir ses livres, notamment sur Hitchcock, par exemple, ou les recueils de ses articles, et d'ailleurs... Il faut dire que le Douchet a une très attaché, le nom Douchet est attaché à certains grands cinéastes plutôt de l'âge classique, mais qu'il a poursuivi jusque très récemment à la fois dans des ciné-clubs, mais aussi dans une chronique qu'il a eue jusqu'à une dizaine d'années environ dans les Cahiers du cinéma, un travail au contemporain sur le cinéma contemporain.
Puis il a collaboré récemment à la 7e Obsession. Absolument. Il était aussi avec de jeunes gens cinéphiles.
Mais donc ce que Douchet montrait, c'était que la critique, c'était tout sauf essayer de déceler la trace de la note d'intention du réalisateur dans les films, mais d'y attraper absolument ce qu'on voulait pour en déceler, pour tracer une voie à partir de détails parfois infimes, une goutte d'eau, un verre de lait, une tasse de café, trouver une forme de vérité absolue du film qui lui serait pourtant absolument propre à lui.
Bon, bah, puissent les critiques actuelles et en devenir bien réfléchir à ce dernier segment, enfin tout le reste, mais à ce que vous venez de dire à l'instant. Lily Blum, quelques mots sur Jean Douchet.
Oui, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il voulait parler de ce que tout le monde voit, mais ce que personne ne remarque. Et moi qui ai eu la chance parfois d'assister à des cours, ce qui était très important, c'est qu'il... Il vous aspirait, il vous transmettait la passion du cinéma et aussi il vous autorisait à aller vers le cinéma, à réfléchir sur le cinéma. Alors certains critiques disent en rigolant que dès qu'il passait quelque part, il y avait un cinéaste qui naissait dans la salle, mais c'est vrai. Il était une sorte de père qui provoquait, générait de véritables vocations. Et c'était très impressionnant, et cette invitation à réfléchir permanente, démocratisée, je trouvais ça magnifique. Et effectivement, il a élevé la critique au rang d'un art complètement complémentaire du cinéma en soi. Et donc voilà, pour lui, la vie et le cinéma devaient se répondre, dialoguer en permanence, se nourrir, vivre pour comprendre le cinéma, regarder le cinéma pour vivre. C'était très beau.
Julien Gester, un tout dernier mot.
Et ce qu'il faut dire aussi très très succinctement, parce que c'est pas ça forcément qui fait la spécificité ou la grandeur de l'homme qu'on évoque ce soir, c'est qu'il a aussi il a ses apparitions, il y a évidemment son œuvre critique est immense, mais il a aussi réalisé un certain nombre de choses. Et c'est deux passages au générique, partage de générique de Paris Vu Par avec ses camarades des Cahiers de la Nouvelle Vague, à un long métrage d'après Goldoni au milieu des années 80. Que personnellement je n'ai pas vu, mais dont j'ai toujours, je crois qu'il est assez difficile à voir.
Je confirme.
Et c'est regrettable. Moi j'ai toujours lu que ça prolongeait parfaitement les rapports, son intérêt pour les rapports entre cinéma et théâtre. Et ce serait formidable que ce film-là puisse se donner à voir.
Bon, ben, de cette génération, il ne reste plus que Godard. Non, mais c'est vrai.
Rosier,
c'est la même génération ?
Pas tout, presque, à quelques années. Ouais.
Quelques années.
À quelques années.
Eh ben, il n'en reste plus beaucoup. Mais Jean Douchet. Ben, vous avez raison, merci de me le rappeler. Il y aura beaucoup d'hommages, évidemment, consacrés à Jean Douchet. Signalons celui de la Cinémathèque française mardi prochain, qui est sur Entrée Libre. Il y aura du monde, donc ne venez pas trop tard. Ça ouvrira, les portes ouvriront à 19h15. Et à 20h, il y aura justement une projection de Saint-Germain-des-Prés. Le segment Jean Douchet de Paris Vu Par, c'est un film de 1965. Et puis la diffusion ensuite du documentaire qu'avons réalisé très récemment Fabien Agège, Vincent Hazard et Guillaume Namur, Jean Douchet, l'enfant agité. On parle beaucoup de lui, on le voit aussi beaucoup parler, c'est évidemment très précieux. Et puis pour en savoir encore plus sur Jean Douchet, vous pouvez aussi consulter le dossier que le site internet de France Culture a mis sur pied aujourd'hui. Remarquable dossier avec beaucoup, beaucoup là aussi d'informations en passant par franceculture.fr.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Et nous reprenons le cours prévu de cette dispute avec Les Misérables de l'Adjli, prix du jury au dernier festival de Cannes. L'action se déroule sur 2 jours. On va être invité à suivre l'arrivée de Stéphane dans la brigade anti-criminalité de Montfermeil, la BAC, avec ses 2 nouveaux coéquipiers. Il va découvrir, et nous avec, la réalité des quartiers dits sensibles de Montfermeil.
J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
Contrôle de police, vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Eh, c'est bon, on se met.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh, hey, les gars, soleil.
Le truc qui te respecte, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi l'histoire? Quand on t'a volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là!
Bouge pas, arrête-toi!
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là.
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut.
C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème?
C'est moi, la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin, là!
T'auras jamais l'esprit BAC, toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
Les Misérables de l'Adjli, un premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment sur ce film. Lily Bloom?
C'est un polar à la mise en scène virtuose sur fond de chronique d'un quartier.
Julien Gester.
Je trouve que c'est un premier long métrage assez impressionnant, mais qui, je trouve, perd la maîtrise de son sujet à trop vouloir maîtriser son scénario.
Et Lucille Comeau.
Moi, je pense que c'est un film qui évite les pièges qu'il pose dans un premier temps pour devenir un bon film d'action.
On a déjà 3 regards assez différents. Vous avez suivi la leçon de Jean Douché. Chacun y a vu des choses et je ne me suis pas encore exprimé. Lily Bloom, vous développez votre point de vue sur ce film de l'Adjli, Les Misérables.
Eh bien, moi, ce que j'ai aimé, alors, effectivement, c'est son quartier qu'il filme. C'est un quartier qu'il connaît par cœur, qu'il a ultra documenté, dans lequel il a passé du temps, sur lequel il n'a aucun fantasme. Donc, contrairement à La Haine, auquel on l'a beaucoup comparé, je trouve, à tort...
Oui, c'est très idiot, je ne savais pas.
Voilà, il n'y a pas de fantasme sur la banlieue, sur la violence de la banlieue, une incitation à la colère, il n'y a pas tout ça. Il veut nous, dans un premier temps du film, nous prendre avec lui, donc on est un peu Damien Bonnard, Stéphane, ce flic qui débarque, ni bon ni méchant, avec une morale moyenne, on va dire, de français moyen, et il nous emporte dans cette banlieue, donc on est en plein été, et il fait une sorte de cartographie du territoire, moi je pensais à The Wire. Il nous fait rencontrer les communautés, les éléments majeurs de cette communauté. On fait un tour du propriétaire. On sent que la tension est présente. Non, mais il y a quelque chose
pas
de cet ordre-là.
Pas du propriétaire, justement. Mais enfin, c'est une des questions.
Il nous invite là-dedans. Et d'un seul coup, par la bavure, il va ouvrir le récit et nous montrer toutes les failles, effectivement, de ce rapport de force qui s'installe entre les différentes communautés et l'impossibilité de s'en sortir finalement. Et qu'est-ce qu'il montre ? C'est un état des lieux assez mélancolique finalement, parce que par le portrait de cette jeunesse, ce qu'il appelle les microbes, de ces gamins qui échappent à leurs parents, qui échappent même aux grands frères, qui échappent à tout le monde, qui baignent dans les jeux vidéo, et finalement qui sont comme amoureux. Et bien finalement ils nous disent voilà, ça va devenir notre problème à tous, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes. Et je trouve que c'est qu'il est toujours délicat, parce que quand il installe le film, le polar, puis le film carrément d'action dans une séquence finale qui est hallucinante, et ben finalement, je trouve qu'il réussit toujours, peut-être parce que sa grande connaissance du territoire, à garder certaines finesses, certains petits ralentissements qui permettent de pas tomber dans la caricature. Et c'est un film vraiment très puissant, mais aussi par sa mise en scène.
Julien Gester, à présent sur Les Misérables.
Je trouve qu'on peut, en effet, je rejoins ce que vient de dire Lily Bloom sur la comparaison au départ initial, en tout cas avec The Wire.
Donc la série de David Simon qui cartographiait Baltimore et ses quartiers, notamment à travers le deal et la police.
Mais qu'il faisait sur 5 saisons d'une douzaine d'épisodes. Alors là, on a affaire à un film d'1h40. Et je trouve que l'ambition est assez séduisante sur la première partie du film, justement de vouloir exercer ce travail justement cartographique. Sur de la cité des Bosquets de Montfermeil, qui est prise là évidemment parce que c'est un territoire connu pour l'Adjli, mais évidemment comme à la fois emblème, symptôme, reflet d'une réalité des cités françaises contemporaines. Et je trouve le film assez fort, assez précis, assez incisif dans ce souci là, mais ces 40 minutes ne permettent évidemment que de rester en surface. Alors on n'attend pas forcément plus de 40 minutes et le problème, il me semble, du film, c'est qu'il est un peu tendu entre en gros deux plans qu'il contient. D'une part, celui du drone qui est une figure de mise en scène un peu marquante du film, puisque l'un des nœuds, même à la fois de la mise en scène et de l'intrigue, c'est qu'un gamin qui traîne par là donc pilote un drone depuis les toits des tours et va être le témoin et l'archiviste de faits qu'on aurait aimé, que tout le monde aurait préféré voir, à part les victimes, évidemment être oublié ou en tout cas sans effacé ou sans témoin. Et c'est évidemment la figure dont on peut supposer que l'Adjli s'identifie à elle, puisque lui-même, dans son histoire, a joué un peu ce rôle-là. Alors, pas avec un drone, mais plutôt, j'imagine, une petite caméra DV ou un caméscope. Ça se joue à quelques années dans ces quartiers. Et puis, l'autre figure, c'est celle du plan serré, agité, d'action, etc. Et le film est un peu suspendu dans un balancier entre les deux. D'abord, la figure majeure de la première partie, c'est celle de ce plan surplombant, très neutre, très à plat, qui décrit des blocs, des forces presque, et des rapports de conflictualité et de complicité aussi, qui vont être mis au jour par justement la mise sous tension de l'intrigue, avec cette bavure où, en gros, tout le monde adulte va se montrer à la fois complice et mouillé dans un état des choses problématique, déliquescent, violent, dont les petits, justement, seraient les victimes et seront la réplique revancharde. Mais je trouve que justement le film a abandonné ce point de vue-là qui était intenable sur la durée d'un film d'une heure quarante, qui a une certaine ambition industrielle, qui avait l'ambition et qui l'a réalisé d'aller à Cannes, de remporter un prix, etc. Est obligé de se fondre dans quelque chose de beaucoup plus, dans ce régime de gros plans, de films d'action, et de se perdre. Pour moi, il perd son presque le point, comme on dit, il perd le focus là-dedans et s'enferme dans quelque chose d'une espèce d'escalade à la fois viriliste, ultra testostéronée, brutale, et où il perd toutes les zones d'ambiguïté, toutes les zones de toute la finesse qu'il pouvait accorder à ces figures à ce moment-là.
Lucille Como.
Oui, je suis assez d'accord avec Julien Gester sur le fait qu'il y a deux régimes. Moi, je préfère largement le second, en revanche. Je vois bien, en effet, il y a deux parties dans le film qui ne sont d'ailleurs pas les deux parties que voudrait, que nous suggérerait le scénario, à savoir avant la bavure, après la bavure. Moi, j'ai eu peur au début. Déjà, le film nous arrive, moi je l'ai vu très récemment, nous arrive avec une réputation qui d'ailleurs ne tient pas vraiment de film de banlieue, entre guillemets, où du coup, on a toutes les craintes d'un film qui veut faire de la représentativité plus que de la représentation. d'un quartier. Et c'est un peu le cas dans une première séquence qui filme des scènes de liesse à la fin de la Coupe du Monde. Donc là, France, on a vraiment en quelques minutes à la fois une Marseillaise, un drapeau français, la Tour Eiffel. Tout ça enchaîné avec en effet cette espèce de technique du regard étranger qui est vraiment la figure du film de banlieue. On a déjà eu ça avec La Vie scolaire qui était un tout autre type de film mais qui reposait sur le même principe, à savoir un personnage qui vient de la province, qui est complètement étranger à ce milieu-là et qui va faire guide touristique pendant quelques temps histoire de poser un peu les différents rapports de force et de, en effet, cartographier les lieux. Moi, tout ça ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'en effet, on n'est pas dans The Wire, on n'a pas l'étendue de 5 saisons, de 12 épisodes et donc du coup, il y a des dialogues qui font dans la simplification. En revanche, je trouve que assez vite, on s'en départit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bases ni vraiment esthétiques, ni idéologiques du film, ni esthétiques, ni idéologiques. On va vers un film qui regarde plusieurs genres. Donc, en effet, le film d'action, c'est assez spectaculaire et je trouve que c'est là qu'il s'épanouit le mieux. Mais aussi le western, avec certaines allusions, des scènes notamment de saloon presque dans un kebab, qui est un lieu absolument central parce que c'est là où se retrouvent toutes les forces en présence. Et c'est ça qu'il faut souligner d'ailleurs. Je pense que le film s'en sort en complexifiant vraiment de manière assez subtile le rapport de force entre gendarmes et voleurs, en ajoutant des autres types d'institutions propres à ce lieu où les institutions que nous on connaît n'ont pas cours. Et donc dans ces institutions, il y a à la fois celles qu'on connaît, donc la police, ceux qui tiennent les tours, donc les dealers qui ont un bar à chicha et donc qui ont l'argent et qui sont plus ou moins de mèche avec la police, et également l'instance religieuse à travers ce personnage assez mystérieux de Salah qu'on entendait dans la bande-annonce et qui rassemble tout ce monde-là autour de lui. Et c'est dans cette complexité-là, qui est une complexité vraiment politique, à mon avis, que le film fonctionne très bien. Et moi, je trouve que la scène d'action finale, au-delà de son caractère spectaculaire, parce que là, pour le coup, c'est une très très bonne scène d'action dans une cage d'escalier, fonctionne très bien et joue très bien la référence hugolienne, qui, par ailleurs, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand les personnages se mettent à citer Les Misérables de Victor Hugo dans la voiture de police, ça ne va pas. Là, on est dans le film qui ne va pas, très clairement. La citation finale est très maladroite, à mon avis. Mais en revanche, la scène finale où il y a cette accumulation où on crée des barricades exactement comme les personnages des Misérables font des barricades de briques et de broc dans le faubourg Saint-Antoine en juillet 1830, là se joue un parallèle qui fonctionne.
Puis on la gavroche quand même.
Pas dans l'explicite, oui, bien sûr. Mais justement, quand c'est trop transparent, quand c'est trop explicite, quand ça fait de la pédagogie, de l'allusion aux émeutes de 2005, tout ça me dérange. Enfin, ne me dérange pas, mais disons que ça ne produit pas grand-chose en termes de cinéma. En revanche, la multiplication des rapports de force et le film d'action, ça, je trouve que ça fonctionne bien.
Alors, beaucoup de choses à dire et peu de temps pour le faire. Non, je pense que le geste fort par rapport à Ego, c'est le titre. Moi, je trouve ça effectivement très... j'étais un peu... Quand j'ai vu ce film arriver à Cannes, je me suis dit, qu'est-ce que c'est quand même cette chose-là? Et je trouve que le geste est tout à fait réussi d'avoir pris ce titre, Les Misérables. Il y a tellement de choses à dire, mais... Je crois que la complexité, quand même, moi, je la perçois dans la mesure où vous parlez de représentation, de représentativité. La question de la représentation, elle est quand même très très présente pour le coup, où chacun joue un rôle, mais avec énormément d'ambiguïté. Vous parlez de celui qui tient le kebab, Salah, comme l'autorité religieuse. Je pense que c'est absolument pas ça, et que c'est quand même ou beaucoup plus que ça, ou c'est aussi un masque qui se pose sur autre chose. Donc, il y a, je pense, beaucoup plus de complexité que le simple tour opérateur qui est proposé au départ nous le laisserait entendre, et je crois que ça se sent, mais par petites touches au long de la deuxième partie. Mais pour faire très court, je dirais que c'est aussi quand même un film qui me semble, moi, être conçu pour son dernier plan, dont je ne parlerai évidemment pas ici pour ne pas le divulgâcher. C'est quelque chose dont je reparlerai à propos du film de Damien Manivelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des cinéastes qui ont des objectifs, et c'est pas du tout... ça peut être très péjoratif, mais je crois que là, c'est pas le cas. Et qu'il y a une force de ce dernier plan qui, là, vraiment, pour moi, est quelque chose qui doit rester et qui peut rester. Julien.
Mais je vous rejoins sur ce dernier plan et puis sur la figure qui l'habite, qui est, je trouve... Moi, le défaut que je prête surtout à cette deuxième partie, c'est que la Jolie s'enferme dans une forme de folklorisation ou de caricaturisation de ses forces en présence, de ses différentes, même quand bien même on sortirait de la bipolarité entre bandits et cow-boys, au cow-boy et indien, enfin, parce que de fait, le film joue vraiment la figure du western et cette relecture-là.
Les Apaches dans Les Misérables, c'est une grande, grande métaphore.
Il y a cette démultiplication-là des fronts, mais je trouve que dans la deuxième partie, il se caricature assez facilement. Et il y a une figure, en effet, qui échappe à ça et qui, paradoxalement, que c'est celle dont on creuse le moins à la fois l'intériorité, dont on met le moins en scène à travers des figures un peu éculées de le soir, on rentre chez soi et puis on fond en larmes en regardant sa maman ou maman tout court. C'est la figure la plus sèche, la plus violente et en même temps la plus pure et ambiguë et magnétique de ce film. Et je regrette que tout le film, justement, n'ait pas été à la mesure à la fois de ce dernier plan et la figure qu'il incarne.
Lucille Comeau, très rapidement.
Oui, c'est en effet une figure de Gavroche. Moi, je trouve qu'il y a un passage qui est absolument passionnant. Bon, un chantage se met en place entre ce gamin et la police. Et on lui dit de dire que c'est sa faute. Et là, il y a citation de la fameuse chanson de Gavroche où il dit, t'es tombé par terre, c'est la faute à. Et c'est à la faute à toi. Et là, dans cette espèce de vide derrière la faute, il y a le vide de tout, tout modèle intellectuel, de tout modèle théorique pour penser ce qui se passe à cet endroit-là. Et c'est certainement dans cette scène-là que se noue ce qu'il y a de plus fort. La seule solution, c'est la violence. Et c'est ce que nous raconte le film, en fait.
Lily Bloom, pour conclure la séquence sur Les Misérables.
Non, mais j'étais juste... effectivement, il y a un point qui, moi, me dérangeait, c'était le traitement des hommes religieux dans le film, qui, je trouve...
Qui ne font que passer, qui sont
moins dans les zones grises, paradoxalement, que d'autres personnages. Et pour moi, la séquence qui résume le film, c'est quand les enfants attendent les policiers pour les mitrailler avec de l'eau. On est vraiment dans une légèreté d'été, c'est drôle. Et puis d'un seul coup, il y a un geste d'un enfant qui fait signe qu'il va lui trancher la gorge. Et d'un seul coup, on bascule dans l'horreur absolue en un seul geste. Et je trouve que ça résume très bien le film.
Allez voir par vous-même Les Misérables de Lajeunesse qui est sorti en salle ce mercredi, dont je crois que les premières séances affichent de beaux taux de fréquentation. On verra ça, les premiers chiffres en fin de semaine. À suivre dans la dispute, on va parler des films de Rabah Meurzaïmèche, de Damien Manivelle.
France Culture, la dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Terminal Sud de Rabah Meurzaïmèche, un cinéaste que personnellement, en tout cas, je suis et apprécie depuis de très nombreuses années le travail, qui fait vraiment un cinéma tout à fait autre, différent, dans une économie aussi qu'il invente souvent lui-même. Cette fois, avec Terminal Sud, alors si le lieu et l'époque ne sont pas absolument déterminés dans ce film, il y a quand même, à l'évidence, il s'origine dans ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie, les années 90. On va en tout cas suivre un médecin incarné par Ramzi Bedia qui cherche à faire du mieux possible son métier dans un contexte qui ne l'y favorise pas.
Tu sais, je vois des gars arriver complètement explosés.
Deux infirmières au bloc, vite !
Il leur manque le rein, la tête, je vois des choses. C'est moi qui dois soigner ça. C'est devenu ça dans le pays.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Continuer.
Comment on est arrivé à un monde où on menace un médecin? Il est mort.
Tu crois que tu vas sauver la Terre? Faut se barrer.
Tu sais très bien pourquoi je reste, que ça te plaise ou non.
Vous êtes en état d'arrestation.
On fera pas de mal, on a besoin de toi.
Mais c'était qui ces gars? Des bandits, des terroristes, des militaires?
J'ai dit qu'il n'y avait aucune explication pour ça.
On a entendu des choses là.
Quoi?
Des petites rumeurs, pas bien pour toi.
C'est qui a le pouvoir ici? Plus fort, c'est qui a le pouvoir ici?
C'est médecin!
T'as fait ce que tu devais faire, merde!
On est au courant de tout!
Tu te crois dans un pays libre?
Terminal Sud de Rabat, Meurzheimer, premier sentiment sur ce film, Lucille Comeau.
Et une bonne dystopie, ça court pas les rues.
Julien Gester.
C'est compliqué.
Lily Bloom.
J'ai pas mieux que Lucille, c'est exactement ça. Exactement ça.
Ah bah alors c'est Lucille Comeau qui commence à nous en parler plus longuement.
Oui, c'est un film qui trouve sa place dans, de manière assez singulière dans ce créneau qui est quand même bien, bien surchargé, bien balisé de la dystopie aujourd'hui. On en voit absolument partout dans les séries, dans les films, dans la littérature. Et donc, dans ce genre qui marche sur deux jambes, à la fois la jambe d'un réalisme très vite reconnaissable et la jambe du film d'anticipation, en comptant toujours sur cet écart-là pour, à mon avis, établir une morale qui est assez réactionnaire dans la plupart des cas, puisque le monde auquel on a affaire est où liberticide, dans un rapport à la technologie est complètement effrayant, fascisant, etc. Là, c'est assez différent. Donc, vous l'avez dit, c'est un film qui se passe dans un univers qui mélange des éléments de familiarité et d'étrangeté. C'est pas évident, l'Algérie de la décennie noire, ça peut aussi être une France dans laquelle l'état d'urgence s'est complètement radicalisé.
Oui, parce qu'on reconnaît en plus des rues françaises.
Oui, voilà, ce qui reste de la... C'est méditerranéen, il y a des éléments à la fois de végétation et de lumière, on en reparlera peut-être, la lumière est très importante, qui sont en effet l'Europe du Sud ou disons le Maghreb, en tout cas un lieu dans lequel règne une forme de terreur, avec des contrôles partout, une police dont on ne sait jamais si elle est vraiment opposante ou adjuvante, en tout cas c'est pas évident. Il y a aussi des éléments qui renvoient à des formes de guérilla, donc le médecin, le personnage principal est appelé dans une zone complètement dans la nature qui ressemble à une forme de jungle colombienne de Narcos. Il y a également des images qui...
Vous l'avez vu tard, non, le film?
Non.
Non. Tard dans la journée, je veux dire.
Jean Douchet, on voit ce qu'on veut. Bon. Non, il y a quand même aussi ces lieux de torture qui désormais hantent absolument tout notre imaginaire, des lieux où on torture des hommes à l'électricité, à l'eau, et qui font maintenant partie à la fois des films de mafia, des films le terrorisme, de l'armée américaine, etc. Et en fait, là, c'est à la fois tout ça et rien en même temps. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout mettre comme type de référence à la terreur contemporaine. Et rien, ce qui crée un effet permanent de perplexité totale, parce que tout est arbitraire, tout paraît arbitraire, et le film aussi, et son fonctionnement, le scénario, la manière dont il fonctionne, ce qui fait, à mon avis, beaucoup plus penser, qui donne beaucoup plus à penser sur ce qu'est la terreur, c'est quand même important aujourd'hui, que les films, par ailleurs, les livres qu'on lit sur... voilà, notre terrible futur, quoi, ce qui va nous arriver.
Non, mais j'ai pas du tout vu une dystopie, comme quoi c'est intéressant, hein, ces différentes lectures. Julien Gester.
J'ai pas forcément vu une dystopie, mais j'en ai pas forcément cherché non plus. Enfin, c'est...
Ah, moi non plus, je cherche jamais de dystopie.
mais vous les trouvez facilement, je crois, Lucille.
C'est possible. Voilà, je rejoins Lucille sur le fait qu'en effet, il y a quelque chose de peut-être plus trouble encore que... Enfin, évidemment, on pense à la décennie noire en Algérie, mais on peut penser, c'est pour rester simplement de ce côté-là de la Méditerranée aussi, évidemment à la colonisation, à la guerre d'indépendance, il y a des échos en fonction des scènes. Et donc le temps, autant que l'espace d'ailleurs, sont très flous.
Non, mais il se présente comme algérien, absolument. Il parle de l'occupant français, il parle
de... Ça s'inscrit dans un continuum qui est celui de l'œuvre de Rabah Meurzheimer, où on peut penser que voilà, le film est là aussi pour, à un moment donné, s'approcher de certains impensés, par exemple d'un Blame Number One, qui était peut-être encore trop à vif historiquement pour confronter à ce qui saille là. Moi, je trouve le film à la fois très ambitieux, justement, dans cette manière de faire feu à la fois de diverses époques et divers rivages de la Méditerranée, de se colter ainsi toutes les facettes possibles d'une forme d'enfer à la fois fascisant, post-colonial et encore de différentes manières, mais forcément aussi un peu inégal. Je pense à la fois dans ses inspirations, enfin dans le trajet du film et de son scénario, mais aussi dans même simplement dans la réalisation de certaines scènes qui vont être... Quand je dis la réalisation, c'est évidemment pas, je parle pas du travail de la caméra, mais dans la concrétisation de l'ambition de certaines scènes qui va être plus ou moins épaisse. Moi, ce que je trouve vraiment absolument magnifique dans ce film impur et aussi beau pour ça, pour la complexité, la flexuosité un peu de son trajet, c'est la pureté absolue, lunaire et étrange de la présence de son acteur principal, Ramzi Bedia, qui n'est pas forcément quelqu'un qu'on a l'habitude de voir dans ce registre, et qui apporte à la fois une présence, un imaginaire et une variété d'états, de manière d'être au monde, de façon d'être au monde, de façon d'être à la caméra, de façon d'être à la lumière et de façon de traverser les scènes, qui je trouve sauve un certain nombre des creux peut-être du film, parce qu'il ouvre systématiquement sur autre chose, et il est à la fois, je trouve, absolument mouvant dans sa façon de traverser le film, toujours surprenant, et en même temps il donne toujours une forme d'ancrage à la fois étranger, profondément un ancrage de familiarité qui aura à voir avec l'humanité que je trouve qu'il porte dans absolument tout ce qu'il fait, et qui dépasse évidemment la question du personnage qu'il joue, qui est donc ce médecin, qui est peut-être le dernier à croire justement une forme d'humanisme dans ces contrées absolument désolées.
Lily Bloom sur Terminal Sud.
Oui, mais je suis assez d'accord. Alors, sur plusieurs points. Tout d'abord, effectivement, le dispositif de nous perdre géographiquement. On ne sait ni dans quel pays, ni dans quel temps on est. On tente de se raccrocher à quelques bribes qui se contredisent. Donc, on finit par être aussi perdu que le personnage principal. Et effectivement, le fait de l'avoir choisi, lui, plus ce dispositif-là, fait vraiment que tout le film est à hauteur d'homme et qu'on est autant égaré que ce personnage, frappé par l'absurdité des situations, et que finalement il y a un grand suspense pour nous, parce que comme on ne sait jamais si c'est une guerre civile, une contre-révolution, on ne sait pas où on est, ben finalement on attend chaque scène et on a le temps de réellement la ressentir. Et ce que j'aime, c'est que en fait Ramzi Bedia, parfois, il est pas juste. Il est un pas à côté. Il est un peu en décalage avec le film. Alors, dans d'autres films, ça peut me déranger. Mais là, d'un seul coup, ça devient très fort, en fait, ces moments où il est en inadéquation totale, presque avec le style du film, parce que on se met à chérir des éléments qu'on connaît de lui par sa carrière, par son existence publique, son humour, bonne enfance, sa légèreté, son côté dégingandé. D'un seul coup, ça devient très émouvant de voir le parcours sacrificiel de ce corps-là que l'on connaît, et ça nous permet, je trouve, de nous rattacher émotionnellement au film. Et voilà, et ça m'a vraiment intéressé jusqu'à la fin, et même les sortes de divagations parfois qui n'ont pas de rapport avec les enjeux narratifs. Quand on se perd dans un enterrement, il reste un peu plus longtemps que prévu, et puis d'un seul coup on prend vraiment un grand plaisir à passer du temps en fait avec lui, dans son regard sur ce pays imaginaire, mais qui quand même est traversé par ses rêves d'Algérie.
Alors, encore une fois, il y aurait pas mal de choses à dire, mais je vais essayer d'être rapide. Cette dystopie que voit Lucile Gaumeau, donc qui éclaire pour moi le film.
Non, mais je suis pas toute seule.
D'un jour nouveau.
Ça me paraissait évident.
C'est vous qui en avez parlé la première.
Normalement, c'est un préambule, le classique.
Mais moi, je pense que c'est vraiment un des problèmes du film, parce que je pense que ça brouille les cartes, mais que ça n'apporte rien, parce que vraiment, c'est tellement ancré dans. C'est dit, encore une fois, ce sont des Algériens, ils parlent des Français, enfin, il y a quand même quelque chose d'absolument ancré de façon très claire. Donc, tout d'un coup, se retrouver dans un village provençal, effectivement, avec des panneaux de circulation français, enfin, il y a quelque chose qui, pour moi, soit ça apporte quelque chose, soit ça ne sert à rien, et pour moi, ça m'a plutôt gêné. Bon, c'est tout à fait, mais c'est une parenthèse, mais quand même, qui importe un tout petit peu. Sur le Ramzi Bedia, moi, j'ai aussi peur dans la toute première scène. J'avais toujours l'impression qu'il allait sortir une vanne, parce qu'il y a cette façon de parler, cette voix qu'on connaît bien, et je trouvais qu'il gagnait en densité, en intensité tout au long du film, et avec ce grand corps comme ça, fatigué, enfin, je trouve qu'il a vraiment une très belle prestance, et je voulais d'ailleurs aussi dire qu'il y a un de mes acteurs préférés, Slimane Dazy, qui lui donne la réplique, qui est quand même toujours, enfin, chaque fois qu'il est au cinéma, beaucoup trop peu. Je trouve que c'est un acteur absolument merveilleux, qui existe à l'écran avec une force, et que cette force, il la communique évidemment à ce film. Et à cet égard, je voulais quand même dire, je crois qu'on l'a pas vraiment dit tout à l'heure, que l'un des grandes qualités de Les Misérables, c'est que ça joue bien, quoi. Ça sonne très bien d'un bout à l'autre, y compris dans ce que Julien Gester appelle la caricature, mais qui est, je pense, un jeu de rôle parfaitement réaliste. Et à cet égard, moi, je me souviens que le premier film de Rabah Mirzamesh, c'est Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, qui se passe chez lui, dans la cité des Bosquets, à Montfermeil, là où il a grandi. Et que, non, mais c'est étonnant de voir que c'est un grand frère pour Ladjli Rabah Mirzaimesh, et de voir comment aujourd'hui il y en a un qui, effectivement, cartographie ou essaye de nous dire ce qui se passe à Montfermeil, tandis que l'autre, plus âgé, est en train de creuser les racines de cette histoire-là. Moi, les films sont sortis le même jour. Vous n'êtes pas sûr de ce que j'avance aussi.
Non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. De racines, en fait.
Ah, pour moi, c'est vraiment cela.
La question de la terreur, elle excède vraiment la référence historique pour moi.
Ah, ouais.
Je pense que c'est vraiment ça qui nous dit. Mais c'est vrai que.
C'est la question des vies brisées, c'est la question de l'exil forcé, c'est la question de moments empêchés et de mémoires empêchées.
Vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que le film...
Merci Julien. Revenez quand vous voulez.
Non, mais le film puise à la fois dans cette matière-là, historique, précise, et auquel il agrège d'ailleurs différents matériaux.
Bien sûr.
Mais pour ouvrir clairement sur autre chose, sur un horizon contemporain.
C'est un film sur l'état d'urgence.
Je trouve que c'est vraiment. C'est en France-Algérie. Il disait que c'était en France-Algérie. Pour moi, c'est les deux. Ça parle des années 90 en Algérie. La sensation.
On ne sera pas les premiers à dire que pour comprendre le présent, c'est bien de connaître le passé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux films. Vu l'heure, on va conclure cette séquence sur Terminal Sud de Rabah Mirzaimesh, qu'on peut voir donc tout aussi utilement que Les Misérables et qu'on recommande. Alors il n'y a évidemment pas la même distribution pour ce film, mais il n'empêche que du coup, il faut davantage encore se presser pour l'aller voir, Terminal Sud de Rabah à Mirzaimesh.
France Culture, La Dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier film à notre sommaire, c'est Les Enfants d'Isadora de Damien Manivelle. C'est un cinéaste qui signe des films apparemment simples, mais pourtant pour moi, jusqu'ici en tout cas, je dirais tout à l'heure, totalement bouleversant. Il y a eu Le Parc, il y a eu Takara qui étaient les derniers en date. Le point de départ de ce nouvel opus, c'est une tragédie, on va dire, puisqu'après la mort de ses deux enfants, mort accidentelle, accident de voiture, la danseuse Isadora Duncan, qui a inventé, on va dire, la danse moderne, cette danseuse a composé un solo d'adieu qui s'intitule La Mer. Et ce film, on va voir de quelle façon, est le récit de la transmission de cette danse.
Tertre et Patrick.
Après la mort de mes deux enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste.
Chaque geste a une signification. Donc j'ai besoin que pour toi, cette histoire, ce récit, tu te le racontes, il existe. Il faut que tu plonges dans cette histoire.
Je sens la tiédeur de mon propre corps.
Je vais y arriver.
Et je réalise que depuis la mort de mes enfants, ces mains ont été marquées à jamais par la tristesse. Comme j'aurais aimé que cet horrible accident fût transformé en beauté.
Et on a entendu la voix d'Agathe Bonitzer on parle des films qui sont composés en différentes séquences ou différentes parties. Ça va être encore le cas ici. On va en parler. Premier tour de table sur Les Enfants d'Isadora de Damien Manivelle, Julien Gester.
Je trouve que c'est un très beau film d'un cinéaste qui trace un itinéraire forcément discret mais très très remarquable dans le cinéma français et qui, je trouve, franchit un nouveau palier à chaque long métrage. Celui-ci, le quatrième, il me semble.
Lily Blum.
Je vais être un peu seule, je sens, sur ma position, mais j'ai trouvé le film un brin obscène, affreusement ennuyeux et tellement aride que voilà, j'ai raté le wagon.
Lucille Comeau.
Bah, vous pouvez prendre l'inverse des adjectifs que je viens d'utiliser. ce sera ça.
D'accord. Allez, Julien Gester développe et peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce film.
Bah, quand je parle d'itinéraire particulier dans le cinéma français, dans le cas de Damien Manivelle, ça tient avant tout, c'est pas toujours très important, c'est rarement même très intéressant de parler forcément cuisine, de parler de méthode de fabrication, de régime de production, mais je trouve que dans ce cas-là précis, c'est quelque chose à mettre en avant. Même si le cinéma de Manivelle se passe forcément pourrait se passer de ces considérations-là, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille d'une manière qui lui est propre, un rythme qui suit celui interne à ses projets, avec peu de moyens, avec peu d'alliés aussi, selon des méthodes qui lui permettent, avec peu d'argent, de faire des films rapidement, de ne pas être dépendant d'un système industriel qui repose beaucoup sur le fait de bien maturer un scénario et de le soumettre à tout un tas de commissions qui vont ensuite l'apprécier et puis lui dire peut-être de revoir sa copie, de revenir dans 2 ans et le temps que la chose se soit totalement desséchée. Et ça permet à Damien Manivelle d'être déjà l'auteur d'un certain nombre de courts et de longs métrages, et ça permet surtout ça produit des films différents. Ça produit des films différents de ceux qu'on a l'habitude de voir sortir, émerger du cinéma français, d'auteurs notamment, mais enfin en général, parce que c'est des films qui peuvent se passer d'une armature dramaturgique forte. Ce sont des films qui peuvent s'en tenir à un régime de gestes, à un régime de présence, à un régime de fascination. Mmh. Et ici, ce que le cinéaste regarde à 3 reprises, selon 3 modalités différentes, c'est la fascination que peut exercer une danse, une chorégraphie donc composée par Isadora Duncan à la suite de la mort de ses enfants, sur 3, en l'occurrence 4 femmes en 3 temps. Et donc quand je parlais de 3 modes différents, c'est qu'on a un premier mode qui est celui de l'apprentissage de cette danse par donc cette danseuse qui est Agathe Bonizère. Dans un second temps, on a celui de la transmission de cette danse d'une femme d'âge moyen à une jeune femme. Et puis, on a, dans un dernier temps, de la réception de cette danse et la manière dont cette danse hante les corps qui la jouent dans les 2 premiers va hanter à son tour. Et dans ce segment qui est pour moi le plus beau et vraiment le plus absolument bouleversant du film, le corps, pour le coup, d'une femme plus âgé, jusqu'à son trajet jusque chez elle, jusqu'à l'intérieur de son domicile, où on sent qu'elle est aussi hantée que les autres par à la fois la présence de la grâce, qui est quelque chose que je trouve guette et capte de manière saisissante Damien Manivelle dans chaque chose ténue et banale, jusqu'à ouvrir une fenêtre, tenir un livre, etc. Mais aussi, donc, au-delà de la présence de cette grâce, l'absence de quelque chose, d'un être, voilà, qu'on peut pressentir dans la vie à la fois de cette femme et qui est évidemment l'horizon de la chorégraphie d'Isora Duncan.
Alors, Lily Bloom, pas du tout le même effet sur vous, on l'a compris, sur ce film de Damien Manivelle.
Et pourtant, et Dieu sait que sur le papier, j'aimais le projet. Déjà, exhumer ce pas dansé déchirant, réfléchir sur effectivement la transmission de ce geste, la dimension salvatrice d'un geste et par extension de l'art. On a tous fait l'expérience intime à un moment ou un autre de notre existence. Et je me retrouve face à un objet où d'un seul coup, je le trouve obscène parce que donc il y a un panneau qui nous dévoile cet incident tragique dans la vie d'Isadora Duncan et s'ensuit pour moi tout un tas de plans d'Agathe Bonitzer qui fait la moue un peu dans le bus, après elle fait la moue en lisant, enfin il y a quelque chose comme ça où je ne vois aucun effort à aucun niveau, j'ai l'impression que c'est tellement rien alors que j'arrive pas à me rattacher, puis il y a un moment une colère arrive parce que je me dis donc tout ça est justifié par l'idée que la force d'évocation de ces quelques mots va suffire à ce que l'on tienne ces 25 minutes et finalement alors après je me suis dit bon très bien il veut nous faire ressentir l'impossibilité de sortir un geste parce que les prémices de la danse arrivent très tard, donc je me suis dit, peut-être qu'il veut nous faire ressentir cette dimension là la difficulté qu'elle avait à la résilience et à redanser à nouveau. Et puis non, et d'un seul coup on arrive dans ce deuxième mouvement transmission. Et là, ça m'a mise en colère parce que finalement, ce sont des personnages qui ne sont pas, dont on ne sait rien, donc qui deviennent finalement très stéréotypés. On a eu cette jeune femme auquel on a très peu d'éléments pour de points d'accroche avec elle. Et puis d'un seul coup arrive cette jeune cette jeune femme trisomique qui du coup n'existe que par ce qu'elle représente, enfin par ce handicap, on va dire. Et donc là, ça m'a paru totalement obscène d'un seul coup et vide. Dans du coup ce vide se déploie dans des grands espaces de centres culturels abandonnés. On repart sur un enchaînement de séquences de cette jeune femme qui mange un sandwich. Et moi, il y a un moment où vraiment, pour moi, c'était bord parodique, quoi. Et ça m'a mise vraiment en colère, parce que je trouve qu'avec une force de sujet comme ça, j'ai une sensation de complaisance, quoi.
Lucille Comeau n'a pas ressenti la même
non,
chose.
J'ai même du mal à comprendre ce que vous y avez vu. Moi, je vais repartir de la scène finale, parce que c'est vrai que le film est extrêmement tendu vers ce qui se passe à la fin. Il y a un travelling sur des personnages qui regardent donc la danse de cette deuxième séquence, donc cette jeune fille qui danse. Et donc on voit tous les regards qui sont en train de regarder ce spectacle qui est forcément émouvant, puisque évidemment il y a une racine qui est terrifiante derrière. Et on voit à quel point c'est difficile. Enfin, moi je trouve ça très difficile au cinéma de filmer l'expérience esthétique. Et là, c'est magnifique ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire qu'on voit la différence de nature d'une expérience esthétique en fonction de ce qu'on a vécu, ce qui est quand même extrêmement difficile à saisir et ce qui est au cœur de toute réception, de toute œuvre artistique qui soit. Et c'est quelque chose qui continue à creuser, parce que le premier long de Damien Manivelle, c'était l'histoire d'un jeune homme qui se baladait un été de désœuvrement dans les rues de Sète et qui se disait poète. Ça s'appelait un jeune poète, et il avait vraiment établi qu'il était poète. Il était poète de fait de rue, à parler avec des inconnus dans une forme de grande trivialité, mais lui avait décidé qu'il était poète, et de fait tout nous disait qu'il était poète. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un rapport toujours à l'expérience artistique qui est à la fois extrêmement simple et assumé. Et il n'y a aucune vanité justement là-dedans. Il y a du vide, il y a du creux, évidemment ça creuse énormément, c'est quasiment sans parole jusqu'à la fin. Mais c'est jamais de la vanité, c'est l'expérience esthétique nue dans sa grâce la plus difficile à saisir. Moi je suis vraiment très impressionnée par ce qu'il fait. Je saurais même pas vraiment décrire techniquement au-delà du format carré, de la lumière, enfin exactement ce qui fait qu'on saisit ce petit battement là, le battement de la réception. J'ai vraiment du mal à le saisir, mais c'est très beau.
C'est très beau. Moi j'ai pensé au film de Abbas Kiarostami, Chérine, qui se concentrait sur les visages d'un spectateur, des spectateurs ou spectatrices, d'ailleurs beaucoup d'une salle de cinéma, regardant un film que nous on ne voit jamais. C'est un des films qui m'a le plus ému dans ma vie. C'est vrai que cette séquence de travelling est très beau. Et pour moi, le film tend, je disais tout à l'heure ça, des Misérables, tend vers sa séquence finale. Mais là aussi, alors, sauf qu'elle est ici beaucoup plus longue, et que la façon dont on rencontre cette dame, dont on l'accompagne ensuite, moi ça me bouleverse absolument, même si alors je pourrais avoir des réserves sur la deuxième partie, effectivement ça me pose un peu de problèmes, ça me rappelle des problèmes que j'ai avec des spectacles de Jérôme Bell, enfin bon voilà, il y a toutes ces questions là, mais on se souvient peut-être aussi que Damien Manivelle, il a été danseur dans une première vie, et que c'est que la question des corps chez lui est très importante dans Le Parc. Il y avait quand même des séquences incroyables d'abandon nocturne, de poursuite, enfin il a
grâce chorégraphique,
c'était déjà totalement chorégraphique. Enfin, moi, je trouve que c'est un cinéaste précieux. Je comprends ce qu'a pu... Moi, contrairement à Lucille Comeau, je comprends ce qu'a pu dire Lily Bloom, même si je ne le partage pas. C'est vrai que c'est une expérience sensible très particulière, mais que là aussi, on vous invite à découvrir dans une belle salle de cinéma. Regardez celle qui projette en ce moment Les Enfants d'Isadora, et ne tardez pas à aller voir ce film qui, lui, bénéficie d'une... On a été en ordre décrescendo au niveau, je pense, du nombre de copies en France dans cette émission. Mais c'est pas un rapport de valeur qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de parler de cinéma en ayant toujours à l'esprit quelques phrases de Jean Douchet, qui a ouvert cette émission et qui doit nous accompagner ce soir. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, David Danan nous a rejoint pour nous rappeler dans un premier temps la question de jeudi hier, nous donner sa réponse, David.
Quel est le nom de la vidéo de Christian Boltanski dans laquelle un homme assis par terre au visage masqué de bandelettes, tous du sang, Et la réponse est L'homme qui tousse.
C'est celle qui nous accueille dans l'exposition du Centre Pompidou, dont on parlera, je pense, la semaine prochaine. Ce soir, on fait gagner des invitations pour un soir à Belgrade, danse, concert, court-métrage. C'est une soirée organisée à la Maison des Pratiques Amateurs, Artistiques Amateurs de Saint-Germain. C'est dans le cadre du week-end à l'Est et ce sera jeudi prochain. C'est place à gagner. Avec quelle question ?
Qui est l'invité d'honneur du festival Weekend à l'Est ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jacques Hubert. Réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur franceculture.fr, à la page de la dispute sur laquelle on peut réécouter ou podcaster nos émissions. Lundi à 19h, une dispute théâtre avec Anna Segalevitch, Philippe Chevillier et Jean-Christophe Briançon. Nous parlerons de Rémy, d'après le sans famille d'Hector Malot de Jonathan Capdevielle. Une des dernières soirées de carnaval de Goldoni, mise en scène Clément Hervieux-Léger. Et la dispute, non pas celle de Marivaux, mais celle de Mohamed El-Khatib.